Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Tiens, c'est le moment de la Bourse Cash. Oui, il est 15h43. Aymeric Guidé nous rejoint. Bonjour Aymeric.
Bonjour Guillaume.
Directeur de la gestion de Pergam. Vous êtes venu dire au marché la vérité. En tout cas, leurs quatre vérités. Vous êtes sûr de vouloir vous lancer, Aymeric ?
Oh, je suis sûr.
Vous vous fichez du candidaton aujourd'hui. Et vous êtes venu le dire haut et fort. Pour vous, Aymeric, le déficit de la France, même pire qu'attendu, qui a été publié tout à l'heure, ce déficit n'a aucune importance pour les marchés et les investisseurs. Vous l'assumez ?
Je l'assume, oui. Totalement.
Le déficit publié ce matin de la France qui s'aggrave, ce déficit à 5,5% du PIB, ça n'a aucune importance, c'est le message que vous êtes venu délivrer aux investisseurs et au marché. Quelle mouche vous a piqué, Aymeric ? Pourquoi choisissez-vous d'être si contrariant face au discours ambiant ?
Parce que c'est juste hallucinant de voir à quel point le marché ne tient pas du tout rigueur, n'en veut pas du tout à la France de laisser filer son déficit. Vous regardez aujourd'hui le 10 ans français, il bouge pas du tout, il est pas du tout impacté, les taux ne bougent pas. C'est juste un non-événement, alors que pourtant, ils avaient guidé les analystes sur une baisse de 4,9. On a 5,5% de déficit et le marché s'en contrefiche. Donc c'est juste quelque chose d'un très intéressant à regarder parce que le chiffre en lui-même, il est catastrophique. Il démontre
carrément catastrophique.
Et catastrophique en effet. Alors, oui, ça démontre une capacité des politiques à ne pas anticiper l'économie, les cycles économiques. C'est extrêmement grave de laisser filer ça autant qu'on l'a aujourd'hui. Et le marché, lui, il vous dit c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on donne encore du crédit et de la confiance dans la gestion des finances publiques françaises. Donc c'est là où on a de temps en temps des aberrations dans le marché, comme on a aujourd'hui. Donc il faut en tenir compte. Et c'est là où, dans l'investissement, on a beau avoir de très mauvaises nouvelles de temps en temps, eh bien, il faut regarder d'une façon un tout petit peu plus large, un tout petit peu plus sur le long terme et regarder les trajectoires. Et c'est là où, aujourd'hui, il faut continuer à investir et essayer continuer à avoir confiance dans les marchés financiers pour réguler ça.
Je veux bien, mais la trajectoire française, elle n'est pas bonne sur les déficits publics puisque ça s'aggrave. 5,5% de déficit public sur PIB sur l'année 2023. C'est pire que ce que je projetais initialement le gouvernement. Alors, on espérait que la croissance française, un peu meilleure que la croissance d'un certain nombre de nos voisins, nous permettrait justement d'améliorer, d'assainir nos comptes publics. On voit que ça n'a pas suffi. Qu'est-ce que se dit le marché, là ? Le marché qui choisit de, finalement, donner un blanc-seing à la France malgré ce mauvais chiffre. Il se dit qu'il y a encore des marges de manœuvre, que la France, en relevant l'impôt, par exemple, en augmentant le niveau des prélèvements fiscaux, trouvera des solutions.
Le discours.
Non, mais voilà, pourquoi le marché s'en fiche, en fait ?
Parce qu'en fait, jusqu'à présent, ça a toujours été le cas. Et on a toujours eu des déficits supérieurs à ce qu'on pensait. Et surtout, on a surtout toujours réussi à le vendre à l'Europe. Et ça, c'est un point qui est très important. C'est qu'à chaque fois, on trouve une raison, que ça soit une raison d'armement, militaire. On fait à chaque fois passer nos déficits, nos surplus de déficits auprès de l'Europe en expliquant qu'on est un acteur extrêmement important dans la stabilité de l'Europe. Et c'est passé à chaque fois, ça passera une nouvelle fois. Les marchés aujourd'hui, ils sont habitués à ça. Donc c'est pour ça qu'on a peu de réactions. C'est que les chiffres ont beau être très mauvais, et ça, encore une fois, ça démontre une très mauvaise gestion de l'État et des finances publiques, mais le marché, lui, il voit quand même qu'en face de ça, il y a des actifs, il y a une situation économique qui est quand même pas si mauvaise, on aura peut-être même de bonnes nouvelles sur la croissance, donc encore une fois, potentiellement, c'est pas si grave que ça à court terme.
Oui, puis il y a des marges de manœuvre pour réduire la dépense publique, par exemple. Autant pour relever les impôts, c'est compliqué, parce qu'on a déjà le niveau de prélèvement le plus élevé de l'OCDE. Donc voilà, enfin, on peut toujours.
Champions du monde de la création de l'impôt.
Comment ?
Des champions du monde de la création de l'impôt.
Oui, c'est ça. Et puis il n'est pas certain qu'en relevant les impôts, ça soutiendra la croissance. C'est plutôt l'inverse.
Totalement. Donc, voilà. Donc c'est pour ça. C'est plus dans les réductions des dépenses qu'il y a un levier extrêmement important.
Est-ce que les agences de notation, néanmoins, vont sanctionner la France ? Fitch et Moody's vont actualiser la note de la France le 26 avril. Ce sera le 31 mai. Est-ce que la note de la France risque d'être dégradée après le chiffre publié tout à l'heure ?
C'est un risque. C'est un risque réel qu'il faut prendre en compte. Alors pour le moment, encore une fois, les marchés obligataires, pour le moment, ne bougent pas par rapport à ça. On est toujours à 2,80 et 2,90 sur le 10 ans français. Donc clairement, pour le moment, c'est pas trop à l'ordre du jour, pas de stress pour le moment sur les marchés. Maintenant, il faut bien se remémorer qu'aux États-Unis on fait du déficit à ne plus savoir qu'en faire également, et pour le moment ça tient aussi. Donc c'est des choses qui existent, qui sont clairement pas pérennes dans le temps, c'est pas des situations pérennes, mais au final, pour le moment, ça tient parce qu'il y a un besoin de soutien à l'économie.
48 points d'écart de taux entre la France et l'Allemagne, le 10 ans français, le 10 ans allemand. Aude nous appelle, Aude Kersulek depuis la Tour Euronext, 15h48. C'est vrai, Aude, que le 10 ans français n'est pas du tout impacté par le chiffre du déficit publié ce matin, et le CAC 40 encore moins. Le CAC est dans le vert cet après-midi, Aude.
Ouais, c'est ça. Si on regarde l'indice français par rapport aux autres indices européens, on voit qu'il sous-performe pas du tout les autres. Hein. Il est dans la moyenne, plus 0,39% pour le CAC 40, l'Eurostock Simon de 0,5%, plus 0,3% pour l'indice espagnol et le DAX qui fait quand même un peu mieux, hein, plus 0,8%. Voilà donc les investisseurs pour les actions qui ne sanctionnent pas donc cette mauvaise nouvelle pour la France. Et c'est vrai que du côté de l'obligataire, on a une détente d'ailleurs sur les taux obligataires en général depuis hier de quelques points de base. Elle est présente aussi sur le 10 ans français qui est donc à 2,84%, et on n'a pas de spread non plus excessif entre le taux français et le taux 10 ans allemand, puisque le taux 10 ans allemand est à 2,36%. Donc il s'est détendu exactement de la même manière depuis hier.
Effectivement, Aude, vous nous rappelez bien sûr quand vous le souhaitez depuis la salle de contrôle du CAC 40. Émeric Didet nous accompagne pour Pergam. Alors on le disait, on a eu un mauvais chiffre ce matin du déficit français, et le marché est habitué. C'est pour ça que le marché ne réagit pas. C'est une des explications au fait qu'effectivement, sur le marché obligataire, il y a zéro réaction. Il faut dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est en fait un anniversaire, Émeric. Oui, l'anniversaire, le 50e anniversaire des déficits publics français. Les déficits français sont en train de signer en 2024. Voilà, une 50e année consécutive de déficit. C'est la France, mesdames, messieurs. Joyeux anniversaire au déficit public français 2024. 50 ans de déficit.
Horrible. C'est horrible de fêter ça. Clairement. Bon, après, il faut bien voir aussi qu'on n'est pas forcément le pire des élèves en Europe. Hein. Donc, on reste quand même une des économies moteurs de la zone euro. On est peut-être dans le moins pire aussi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus de stress et de surstress sur les marchés obligataires, et que ça n'impacte que peu les marchés de capitaux.
Effectivement,
aujourd'hui.
Et alors, quand on se regarde, on s'inquiète, puis tant qu'on se compare, on se rassure, parce que les États-Unis ont un niveau de déficit sur PIB supérieur à la France, plus de 6% pour les Américains. Le Japon aussi a plus de déficit rapporté au PIB que la France. Donc voilà, la France comparée à l'Allemagne, aux pays de l'Europe du Nord ou à certains pays maintenant d'Europe du Sud, c'est pas forcément terrible. Mais quand on se compare à d'autres grandes nations et puissances économiques, la première et la troisième, le Japon, les États-Unis, notre niveau de déficit sur PIB est plutôt inférieur encore.
Voilà. C'est quand même triste de devoir comparer ça. Et un jour, j'espère qu'on comparera plutôt les excédents. Mais malheureusement, c'est pas pour tout de suite.
Ouais. Joyeux anniversaire au déficit public français. Donc 50e anniversaire, 50 ans d'affilée de déficit, voilà, année après année pour la France. Pendant ce temps, sur les marchés, alors sur le marché action, on va se recoller, hein, se reconcentrer sur ce marché action là. On est en hausse, que ce soit aux États-Unis ou en Europe aujourd'hui. On est en hausse, on peut s'en réjouir, on est encore proche des records historiques à Wall Street, sur le CAC 40, avec des niveaux de volatilité toujours extrêmement bas. Ces niveaux de volatilité très très bas sur le marché, c'est prometteur, c'est bon signe pour la suite, ou il faut s'en inquiéter?
De temps en temps, on se dit un petit peu que c'est le calme avant la tempête. Quand on a souvent, historiquement, quand on a de la volatilité qui baisse, on est à peu près à 13 sur le VIX actuellement aux États-Unis. C'est des niveaux qui sont en dessous de 15, qu'on estime plutôt faibles. Et on sait que c'est un peu, on est toujours un peu sur la poudrière, et qu'il suffit d'une étincelle pour faire exploser la volatilité. Donc, historiquement, quand on a des niveaux très faibles, c'est un petit peu des zones qui peuvent être zones de stress, oui. Et qui peuvent...
C'est-à-dire qu'il y a une partie du marché qui dort un peu trop.
Pour lesquelles on peut avoir des catalyseurs qui peuvent mettre le feu aux poudres. Et on a aussi quelques indicateurs un peu avancés. Quand tous les banquiers américains commencent à vous remettre des niveaux cibles sur les indices actions américaines extrêmement élevés, c'est souvent des signes à un moment donné qu'on repousse les barrières du possible. Donc ça aussi, c'est des signes avant-coureurs.
Je vais tout de suite vous rassurer. JP Morgan voit le S&P reculer de 1000 points d'ici la fin de l'année. Ça vous rassure du coup? Moins 20%, c'est la prévision de JP Morgan pour le S&P d'ici à la fin de l'année.
Oui, mais Goldman Sachs voyait une hausse, lui, assez significative. Donc c'est ça qui fait le marché. Mais en tout cas, c'est plutôt des signes qu'il ne faut pas prendre à la légère. Maintenant, il faut voir qu'aussi, on est une semaine sur lesquelles il y a très peu de volume, puisque fin de semaine sera fermée. Donc Donc là aussi, ça n'incite pas à prendre du risque, ça n'incite pas à avoir de la volatilité sur les marchés, mais il n'empêche que ce sont des marchés qui restent très très bien orientés. On a fini la période de résultats. Historiquement, c'est plutôt là où on se cherche. On va attaquer les périodes de dividendes. Donc là aussi, il y a un peu de rotation de portefeuille pour aller sur des valeurs souvent un peu plus défensives. Donc ça réduit aussi un petit peu la volatilité.
Justement, puisqu'on va entrer dans la saison de versement des dividendes, est-ce que vous avez une idée de valeur à proposer dont vous vous dites elle verse un dividende généreux et en plus ce titre a un gros potentiel de hausse en bourse? Voilà, le meilleur des deux mondes. Est-ce qu'il y a une valeur comme ça qui vous vient à l'esprit?
Oh, il y en a plein, parce que historiquement on cherche toujours les valeurs qui versent des dividendes parce qu'elles ont une santé plutôt bonne, et idéalement même on va chercher des valeurs qui versent des dividendes en croissance. Alors dividendes en croissance, les classiques, c'est les L'Oréal qui augmentent tout le temps leurs dividendes mais avec des niveaux assez faibles, ou plutôt on va aller chercher des valeurs qui sont avec des bilans très sains et des niveaux de dividendes assez élevés. Alors on peut avoir des Engie par exemple qui ont des niveaux de dividendes forts, on peut avoir des Bouygues, on peut avoir pas mal de sociétés pour lesquelles on a à la fois un bilan sain, plutôt un objectif avec de la croissance, et enfin le dividende souvent est rattrapé dans les jours qui viennent sa distribution.
Une dernière question concernant cette séance en cours, et l'une des valeurs qui se distingue à la hausse, c'est le joyau du jour, Ruby. Ruby gagne 10%, Vincent Bolloré a franchi les 5% du capital. Comment voyez l'avenir de Ruby en bourse avec Vincent Bolloré au-delà des 5% du capital?
C'est à la fois un dossier qu'il connaît très bien, il le fait par l'intermédiaire de la société des Terres Rouges. Il se désengageait un petit peu de l'Afrique ces derniers temps, il revient sur un dossier qui a un petit peu de connotation sur cette zone-là, et en tout cas de l'activité là-bas. Il connaît bien le dossier. 5%, c'est rarement une situation qu'il a pratiquée en restant là. C'est pour ça que le titre continue à monter aujourd'hui, puisqu'elle reprend une dizaine de pourcents. Donc on a un peu l'impression qu'il peut aller un tout petit peu plus loin sur le dossier Ruby, donc qu'il peut monter. Par contre, la structure du capital de Ruby n'est pas simple, parce que c'est une commandite, donc il ne peut pas faire totalement ce qu'il veut, il ne peut pas prendre le pouvoir comme
sauf
il le veut.
Sauf si, comme chez Lagardère, il fait sauter la commandite.
Sauf s'il fait sauter la commandite, sauf s'il a des accords qu'on ne connaît pas, et encore une fois, l'avenir nous le dira, mais par contre, ce que nous dit le marché, en faisant encore monter le titre de 10% aujourd'hui, c'est qu'il y a des chances qu'il aille un tout petit peu plus loin que les 5 premiers pourcents.
Aymeric Didet, merci beaucoup, directeur de la gestion de Pergam, régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup Aymeric, et donc votre message au marché, oui, le déficit public s'aggrave. Déficit de la France s'aggrave, mais pour les marchés, c'est pas un sujet. Et d'ailleurs, effectivement, sur le 10 ans français, zéro réaction, aucune sanction de marché après l'aggravation de déficit public et ce chiffre qui a été publié ce matin. Merci Aymeric d'être passé nous voir.